15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours en direct de 15h à 16h. Tous les jours, j'ai la chance de l'avoir à mes côtés pour répondre à vos questions. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la dyspraxie, un trouble mal connu qu'on appelle aussi la maladresse pathologique. Ce sont souvent des enfants, puis des adultes évidemment, qui ont des problèmes de motricité fine, de coordination des gestes et même de planification. Avec notre invité, le pédopsychiatre Louis Vera. On fera le point sur ce handicap invisible et surtout sur les moyens d'aider ces enfants, car oui, ils peuvent tout à fait s'en sortir à l'école avec quelques adaptations. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des médicaments à base de tramadol, des antidouleurs dont les recommandations de prescription viennent de changer aujourd'hui, notamment à cause du risque de dépendance qu'ils entraînent. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, on va parler de l'hépatite A. Elle est rare en France, mais attention, si vous voyagez en Afrique ou en Asie, par exemple, des zones où ce virus circule beaucoup plus, on fera le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des films pornographiques. Certains en regardent même pendant les rapports sexuels. Catherine nous dira ce qu'elle en pense.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Régis, 56 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, je voulais savoir si le pain faisait vraiment grossir et combien de grammes par jour il faut en manger. Et surtout, quels sont les pains qui sont recommandés. Voilà, merci beaucoup pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Alors le pain, vous en mangez beaucoup vous Jimmy, c'est ça.
Comment vous le savez?
C'est ça, je sais pas. Alors surtout en France, de toute façon c'est quelque chose quand même d'important, on en consomme énormément, de la baguette, du pain complet, aux noix, au levain, il y en a toutes sortes. Mais c'est vrai qu'on a tout ça en tête, le fait que bah, peut-être ça fait un petit peu grossir, en tout cas qu'il ne faut pas en abuser. Hein. C'est vrai ou pas Jimmy?
Alors c'est vrai que le pain c'est un vaste sujet, on pourrait même faire une émission entière consacrée au pain tellement il y en a.
On le fera.
Alors, c'est
peut-être,
vrai que
pourquoi pas.
Certaines enquêtes montrent qu'au moins 30% des Français pense que le pain fait grossir et pourtant c'est faux, c'est plutôt faux, à moins d'engloutir comme moi 3 baguettes par jour.
C'est
alors
ça.
Évidemment que ça doit rentrer dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Si vous mangez du pain avec des frites et de la mayonnaise, c'est un peu moins bon qu'une tranche de jambon ou un petit peu de fromage. Et en termes de quantité, actuellement en France, on mange 140 grammes de pain par jour. En baguette, c'est 250 grammes et certains nutritionnistes disent qu'on pourrait aller un peu au-delà, jusqu'à 200-250 grammes de pain par jour. Mais évidemment, dans un contexte, on fera attention à ce qu'on mange à côté.
Et alors, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter de bon, le pain? Qu'est-ce que ça contient?
Alors, le pain, il est très riche en fibres. Donc, c'est intéressant, notamment pour ceux qui ont des problèmes de transit. Ça pourrait améliorer le transit.
Bien sûr.
C'est riche en vitamines, celles du groupe B. Donc, B1, B2, B3, B5, B6, B12, B9, on peut toutes les faire. Et donc, c'est important pour le métabolisme. Ça apporte aussi des sucres lents qui permettent de maintenir un bon taux de glucose dans le sang. Et puis enfin, forcément, ça procure de l'énergie lorsque c'est quand utilisé de façon rationnelle au moment du repas.
D'accord, mais on est d'accord, donc on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais il y a pain et pain. J'imagine que
les tranches de pain de mie
en supermarché, c'est pas
exactement
terrible.
Alors, le pain blanc, déjà, c'est moins bien que le pain complet ou d'autres types avec d'autres céréales. Évidemment que tous ne se valent pas et que s'il faut en acheter, mieux vaut celui de la boulangerie que celui qu'on achète de façon industrielle dans certains supermarchés qui sont fabriqués avec de la farine raffinée dont l'intérêt est plus limité que ça.
Bon, on ne peut pas dire encore une fois tout aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous conseillez, vous, comme pain? Alors, on va dire, qu'est-ce que vous... D'un point de vue médical, en tout cas, peut-être.
Pain complet ou semi-complet, c'est ce que les nutritionnistes conseillent. Ils sont plus riches en fibres et un index glycémique un peu moins important que les pains blancs ou les pains briochés.
Merci beaucoup, Jimmy. Et puis, on fera peut-être une émission sur le pain, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On passe à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Boris, 38 ans. On l'écoute.
Oui, bonjour Mélanie. Bonjour docteur Mohamed. J'avais juste une petite question. J'ai entendu parler d'un vaccin qui serait contre la gastro et anti-cancer. J'ai pas très bien compris. Je voulais juste savoir si c'était vrai ou faux. Voilà, je vous remercie pour votre réponse. Au revoir.
Alors Jimmy, c'est quoi cette histoire de vaccin contre la gastro qui pourrait combattre le cancer? Je crois que ce sont des chercheurs de l'INSERM qui ont publié ça récemment.
Exactement, c'est une étude incroyable. On part du constat que l'immunothérapie, c'est un traitement révolutionnaire
dans
certains
cancers,
exactement, peut marcher mais ne marche pas chez tous les patients. On sait que ce traitement, l'immunothérapie, est efficace. C'est seulement 20% des patients. Ils se sont dit...
Qui ont un cancer métastatique, souvent, donc des cancers assez graves, très avancés.
Et on s'est demandé comment lever ces résistances. Et on s'est dit, tiens, on va leur à ces personnes, leur donner des vaccins qui existent déjà, et on va voir si ça va changer la réponse inflammatoire et modifier l'immunité malade pour que le traitement marche sur ces tumeurs.
Alors, ils ont testé, vous avez dit, des vaccins qui existent déjà, mais des vaccins qui n'ont rien à voir avec le cancer en lui-même, hein, c'est ça ?
Exactement.
C'est quoi comme vaccin ?
Alors, ils ont testé chez des gens,
sur
des tumeurs plutôt pédiatriques, comme le neuroblastome, pour lequel on n'a pas beaucoup de choses à proposer, des cancers agressifs qui ne répondent pas à l'immunothérapie existante. Mmh. On a essayé 14 vaccins différents, des vaccins qui existent déjà dans le commerce, comme celui du BCG, des vaccins plutôt classiques. Et on a testé, en plus de ça, celui contre le virus de la gastroentérite, le rotavirus.
D'accord.
Et on s'est rendu compte que ce virus, ce vaccin contre ce virus, était responsable d'une limitation de l'inflammation, parce que ça permet de réguler l'inflammation et que ça pouvait être intéressant. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en injectant in vitro ce vaccin, on réduisait le volume et on faisait disparaître les tumeurs. Et lorsqu'on combine immunothérapie plus vaccination, on fait disparaître les tumeurs.
C'est incroyable. Donc c'est bon, c'est pas pour demain par contre.
C'est préliminaire, recherche prend du temps, c'est très encourageant.
Il va falloir confirmer sur plus de patients dans des essais cliniques. Mais en tout cas, un bel espoir. Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Boris qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions, surtout n'hésitez pas, ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des risques des médicaments à base de tramadol. Les règles de prescription de ces antidouleurs viennent de changer. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le pédopsychiatre Louis Vera, avec qui nous allons tout vous dire sur la dyspraxie, un handicap invisible qui touche les enfants, qu'on croit à tort très maladroit. Vous allez voir, c'est très intéressant. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le pédopsychiatre Louis Vera avec qui nous parlerons de dyspraxie, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez d'une alerte de l'Agence du médicament, une alerte publiée ce matin à propos des règles de prescription d'un médicament contre la douleur qu'on appelle le tramadol. Déjà Jimmy, est-ce que vous pouvez nous rappeler, c'est quoi comme médicament ?
Alors donc c'est un médicament contre la douleur, c'est un antalgique qui appartient à la classe des opioïdes comme la morphine. Il agit sur le système nerveux central et soulage la douleur. Il est indiqué dans les douleurs modérées à intenses chez l'adulte et l'adolescent de plus de 15 ans. Certains ne le connaissent pas sous la forme de tramadol car il existe sous différentes formes, différentes marques. On a l'Exprime, le Contramal ou encore le Zaldiar.
D'accord. Alors dans quelle situation on prend ce traitement ?
Alors le tramadol, c'est un palier 2. Il y a plusieurs paliers dans les médicaments. 1, 2 et 3 contre la douleur. Lorsque vous avez eu un traitement de palier 1 et que ça n'a pas marché,
genre le paracétamol.
Exactement. On passe au palier 2 pour vous soulager, mais on peut aussi l'utiliser d'emblée dans des douleurs assez intenses comme celle du calcul rénal. Ça fait terriblement mal dans certaines fractures, mais aussi on peut l'utiliser.
Moi, j'en ai eu pour une sciatique une fois.
Exactement. C'est les lombos sciatiques. Hein, et attention, lorsqu'on a des pathologies chroniques comme l'arthrose ou le cancer, on peut l'utiliser avec le risque de dépendance et d'effets secondaires dont on va parler.
C'est ça, c'est quoi les problèmes précisément qui sont pointés du doigt sur ces types de médicaments ?
Alors le tramadol, c'est le premier antalgique opioïde qui est cité dans une enquête sur les usages problématiques, à la fois chez les usagers de drogue, mais aussi dans la population générale pour le traitement de la douleur. Les problèmes observés sont ceux de dépendance, avec des signes de sevrage lorsque on s'arrête de prendre le traitement, même à des doses recommandées et même sur une courte période. Ce qui veut donc dire que les patients peuvent être addicts et développer
assez
une réelle
vite,
dépendance.
Ouais.
On sait qu'en plus, c'est le premier antalgique impliqué dans les décès liés à la prise de médicaments contre la douleur devant la morphine.
Ah ouais,
et enfin, c'est le deuxième médicament le plus falsifié en pharmacie, derrière la codéine.
C'est fou ça. Qu'est-ce qu'il propose du coup l'Agence du médicament pour changer un peu ces problèmes-là, hein ?
Alors jusqu'à présent, il était possible de prescrire le tramadol durant un an.
Plus faire
désormais,
des ordonnances de un an.
On
voilà,
limite
ouais.
la prescription à 3 mois et cette mesure sera applicable au 15 avril 2020.
D'accord, donc il ne faut pas que les patients soient surpris, ils n'auront plus d'ordonnance sur un an de tramadol.
Ce qui reste quand même assez rare, marginal. Une ordonnance d'un an pour un traitement antalgique, c'est
souvent,
un peu particulier,
hein,
j'en fais jamais, on explique toujours aux gens. Et ce qu'on peut dire aux patients, c'est que 1, il faut respecter la posologie du tramadol, la durée du traitement. Si la douleur n'est pas soulagée, on n'en prend pas plus, on ne fait pas n'importe quoi, on reconsulte. Et si on doit arrêter brutalement le traitement, il ne faut pas hésiter à poser des questions aux pharmaciens, aux médecins, car vous pouvez développer des signes de sevrage.
Donc ça se fait progressivement, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement. Et enfin, le tramadol peut entraîner, en cas de surdosage, un décès tout simplement. Vous pouvez mourir du tramadol.
Donc, très attention.
Dernier conseil, si vous n'avez jamais pris de tramadol, souvent c'est prescrit un peu à la va-vite lorsqu'on sort des urgences parce qu'il faut soulager les gens. Si vous n'en avez jamais pris, prenez une toute petite dose. Ça peut être responsable de nausées, vomissements, maux de tête, somnolence, fatigue.
Oui, que ça, d'accord.
Et donc parfois, on tolère très mal le traitement. Donc à utiliser avec prudence et s'il y a le moindre effet secondaire, on arrête le traitement.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed. Alors tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est le docteur Louis Vera. Il est pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et l'auteur du livre « Tous précoces, tous hyperactifs, vraiment » aux éditions Larousse.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Vera.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on ne va pas parler des enfants précoces. Vous étiez venu dans une précédente émission nous en parler, c'était l'objet de votre livre, car vous êtes aussi spécialiste de ce qu'on appelle les troubles 10. Et donc, dans cette émission, on parle aujourd'hui de la dyspraxie. Bon, d'abord, expliquez-nous ce que ça veut dire dyspraxie, comment on définit ça?
Alors effectivement, quand on s'occupe de jeunes qui ont du mal à se concentrer, on est obligé de connaître les troubles 10. J'ai envie de répondre à cette question en vous racontant une histoire.
Allez-y.
Alors, l'histoire, c'est le petit Jonathan, 9 ans, qui consulte la semaine dernière et le rendez-vous commence de manière assez inhabituelle puisque sa maman me tend le carnet de correspondance de Jonathan où elle me demande de lire un mot. Alors, je lis ce mot et il est écrit « Chère madame, je suis au regret de vous annoncer que Jonathan est définitivement renvoyé de son établissement. »
Pardon ?
Et en tout petit caractère en dessous, PS, ça n'est pas la peine de nous rappeler.
Mais non.
Alors, au vu de l'orthographe et de l'écriture, j'ai vite compris que c'était le petit Jonathan qui avait écrit ce mot à l'intention de sa mère.
Okay.
Alors, c'est vrai que c'est une histoire qui peut prêter à sourire. Ça m'a fait sourire en consultation.
Sur le coup, j'ai trouvé ça pas drôle du tout. Mais,
mais derrière cette histoire, il y a un véritable drame humain.
Ah ouais.
Et ce drame humain, c'est le drame que vit Jonathan depuis qu'il est rentré au CP. Et parce que finalement, c'est un enfant dyspraxique. Qui avait des difficultés au niveau du graphisme.
Il n'arrivait pas bien à écrire, tout
voilà,
ça. Ouais.
Il avait une écriture qui était assez chaotique et parfois il écrivait bien, parfois il écrivait mal. Et finalement, ce que cet enfant entendait depuis la grande section de maternelle, c'est « tu ne fais pas assez d'efforts, ça n'est pas propre, ça n'est pas soigné, ça n'est pas beau ». Et finalement, son grand problème, c'est qu'une fois c'était bien, une fois c'était pas bien. Alors finalement, on n'arrivait pas à se dire « c'est un trouble ». On se disait « à certains moments, il fait un effort, à d'autres moments, il ne fait pas d'efforts ».
Jimmy ?
Et ce trouble touche beaucoup d'enfants, c'est fréquent ?
Alors, c'est un trouble qui touche à peu près 6% de la population, ça fait à peu près un enfant par classe.
Ouais, c'est
quand même assez fréquent. Plus les filles, les garçons, il n'y a pas de différence ?
Autant de filles que de garçons, pas de différence à ce niveau-là. Et le gros problème, c'est que c'est un trouble invisible, comme vous le disiez tout à l'heure. Et effectivement, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Et à ce moment-là, je veux dire une chose. Il ne faut pas partir du principe que l'enfant ne fait pas d'effort, il faut partir du principe qu'il fait un effort mais qu'il a une difficulté.
On va détailler tout ça, docteur Vera. On ne fait que commencer cet entretien, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc au dépistage de ce trouble, la dyspraxie. Ce sont des enfants qu'on croit à tort très maladroits, qui se cognent pas mal, qui n'arrivent pas à faire leurs lacets parfois, ou qu'on classe direct dans ceux qui ne savent pas dessiner ou qui sont nuls en géométrie. Mais vous verrez qu'en fait, tout ça, ça vient d'un dysfonctionnement au niveau cérébral. On vous explique tout juste après. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble sur Europe 1 jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Louis Vera, pédopsychiatre. Il est pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors, avec vous, docteur, aujourd'hui, on fait le point sur la dyspraxie. On a un petit peu expliqué tout à l'heure que, en fait, il y avait pas, c'était comme un trouble des dyslexiques, des dysorthographiques, je crois, dyscalculiques. Là, c'est la dyspraxie. Mais il n'y a pas une dyspraxie, même dans la dyspraxie en elle-même, il y a des dyspraxies, hein, c'est ça ?
Alors effectivement, la dyspraxie, c'est un trouble 10. C'est ce qu'on appelle un trouble des apprentissages. En fait, c'est un trouble qui touche la programmation du geste moteur. Par exemple, si je dois attraper un verre d'eau, un objet, quel qu'il soit, mon cerveau a appris à faire ce geste et fait des calculs très minutieux, mais aussi très rapidement.
Ça, c'est chez moi, c'est les gens qui n'en souffrent
voilà,
pas.
Pour que j'attrape ce geste sans difficulté. Le problème de l'enfant dyspraxique, c'est que l'anticipation, la programmation du geste sont perturbées. C'est un trouble neurologique. Et cet enfant-là va devoir penser le geste. En fait, il va faire une dépense d'énergie supplémentaire par rapport à un enfant qui n'a pas ce trouble pour réaliser le même geste. Il va donc le faire lentement. Et c'est un coût énergétique, c'est fatigant. Alors, il y a différents types de dyspraxie. On va simplifier un peu les choses et parler en premier de ce qu'on appelle les troubles du développement de la coordination. Ce sont effectivement des enfants maladroits. Ce sont les enfants qu'on ne va pas prendre pour jouer au foot dans l'équipe parce qu'à chaque fois, il tire à côté, il ne met jamais de but. Donc, soit on lui dit « t'es gentil, tu vas jouer avec les filles », soit on va lui dire « écoute, on te met au cage, comme ça, il y aura moins de problèmes ».
D'accord, grosso modo, c'est ça.
Voilà, c'est ça. On tire toujours à côté, on a du mal à viser. Ce sont des enfants qui parfois vont tomber en marchant, tomber en courant, peuvent avoir du mal à apprendre à faire du vélo, peuvent avoir du mal à coordonner les gestes en natation. Mais ils n'ont pas toujours tous ces symptômes-là. C'est ça qui peut nous perdre un petit peu parfois. C'est que lorsque vous lisez des descriptions de la dyspraxie, il faut se dire que votre enfant peut avoir quelques symptômes, mais pas forcément tous, et qu'il peut réussir à certains moments, et pas à d'autres.
Et il n'y a pas que ça, il y a des troubles aussi visio-spatiales.
Donc là, effectivement, on a parlé des troubles du développement de la coordination, ce sont les enfants maladroits. Et à côté de ça, de manière plus générale, on a les troubles de la motricité fine.
D'accord.
Et alors ça, ça va se repérer parce que l'enfant va avoir des difficultés graphiques, il a du mal à écrire. En tout cas, ça va lui coûter plus d'énergie d'écrire ou tout simplement d'écrire sur la ligne.
Il dessine mal.
Alors, pas forcément.
Ah, il y en a qui dessinent
bien. Il va dépasser en coloriant, il va découper de traviole avec des ciseaux. Les gommettes, c'est de travers. Les feuilles, c'est découpé de travers. C'est collé n'importe comment sur les pages. Mais par contre, il peut être excellent dessinateur.
Jimmy ?
Et est-ce qu'on peut cumuler ces troubles et ce qui veut donc dire que par la suite, ça peut être un véritable handicap dans la vie de tous les jours ?
Alors, malheureusement, effectivement, on peut cumuler les troubles des apprentissages. On peut aussi bien cumuler une dyspraxie développementale, ce qu'on appelle les troubles du développement de la coordination, donc la maladresse, et un trouble de la motricité fine. On peut en plus avoir des difficultés de concentration, on peut avoir une dyslexie,
bon,
une
là, c'est
dyscalculie.
C'est la totale, quoi.
Là, c'est la totale, c'est ce qu'on appelle les troubles multidys.
Pour un dyspraxique, peut-être qu'il n'y a pas forcément tout, mais qu'il y a quelques-uns des symptômes dont vous venez de parler, est-ce qu'on sait, on a identifié la cause ? Pourquoi on est dyspraxique tout d'un coup ? Pourquoi un enfant l'est et l'autre pas ?
Alors, il n'y a pas de cause qui a été identifiée. C'est ce qu'on appelle un trouble développemental. Et souvent, il y a une part héréditaire.
Ah.
Donc, c'est vrai, souvent, je demande aux parents, mais vous, d'ailleurs, dans les troubles visio-spatiaux.
Ils viennent avec un enfant un peu dyspraxique, justement.
Ils viennent avec un enfant qui écrit un peu de travers, un peu penché, pas sur la ligne. Donc, je regarde les parents droit dans les yeux et je leur dis, vous, le GPS, vous vous engueulez avec ? Il vous faut un temps de réflexion, droite, gauche.
Et là, ah, c'est toi, chérie.
Puis là, vous avez des bagarres entre les parents. C'est elle, c'est lui. Je savais, c'est toi. Vous inquiétez pas, il n'y a pas encore eu de divorce dans le cabinet.
Mais c'est héréditaire, en tout cas. À quel âge on le dépiste ? Parce que vous avez dit, c'est le gamin qui colle mal les gommettes, etc. Mais enfin, à 2 ans, tout enfant colle mal les gommettes, c'est pas bien dessiné, découpe de travers. Mais...
Alors, ce serait très facile à dépister dès la grande section de maternelle si nos enseignants étaient formés. S'il y avait une réelle volonté de formation des enseignants, on pourrait dépister très simplement ces troubles dès la grande section de maternelle. S'il y avait aussi une information pour les parents. Mais malheureusement, enseignants et parents ont souvent l'impression, quand c'est irrégulier, qu'il y a un manque de volonté plutôt qu'une difficulté à faire.
Alors, docteur Vera, on va continuer évidemment à parler de la dyspraxie dans quelques minutes. On n'en a pas terminé avec vous.
Europe 1.
Dans un instant, on va passer évidemment à la prise en charge de ces enfants. Qui consulter et avec qui peut-on faire cette rééducation ? Puisque c'est par ça que ça passe, pour apprendre à l'enfant à compenser ce trouble. Nous verrons également s'il existe ou non des médicaments pour les enfants dyspraxiques. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le pédopsychiatre Louis Vera. Alors, il y a quelques minutes, docteur, vous nous avez parlé un petit peu du dépistage finalement de cette dyspraxie. Et finalement, vous nous avez pas encore dit, et je vais vous poser la question maintenant, chez qui on envoie justement, qui on va voir quand on pense que cet enfant, notre enfant, il a peut-être ce que vous avez décrit tout à l'heure, il est maladroit, il est toujours gaule, il joue balle au foot, il sait pas découper, il met des gommettes à côté. On imagine qu'il est peut-être dyspraxique, on va voir qui, un psy, quelqu'un d'autre,
c'est alors, qui le spécialiste ? Quand on est face à un enfant un peu pato ou qui a des difficultés de motricité fine, la première personne à consulter, c'est la psychomotricienne.
C'est un métier qu'on ne connaît pas toujours d'ailleurs. Il y en a un peu partout en France, on en trouve facilement.
Il y a beaucoup de psychomotriciens en France. La chance, c'est qu'ils sont plus facilement accessibles que les orthophonistes, qui ont des listes d'attente très longues. Et les psychomotriciens savent très bien faire des tests pour dépister les difficultés en motricité globale et en motricité fine.
Alors c'est un gros bilan quand même qui se fait quand on amène un enfant, potentiellement on pense qu'il est dyspraxique, il ne va pas faire un bilan avec cette psychomotricienne. Elle lui fait quoi ? Le bilan, ça va être un peu long, hein, c'est ça ?
Alors, la plupart du temps, ce sont 2 séances de 45 minutes. Pendant la première séance, on va observer l'enfant, faire des tests de motricité globale.
Ouais.
Dans une deuxième séance, on va faire des tests de motricité fine. Et puis, on va rendre ses conclusions. Et là, j'incite les parents à beaucoup de prudence et d'attention. Ça n'est pas toujours dit de manière claire qu'il y a une dyspraxie ou que la rééducation est importante. Et ce qui est important finalement, c'est lorsqu'on a les conclusions du psychomotricien, d'aller voir son médecin et de lui demander confirmation et de manière à avoir une deuxième personne qui va insister sur la prise en charge.
Jimmy ?
Du coup, quand on a un trouble du langage, on va voir l'orthophoniste. Si on a une dyspraxie quelconque, on fait quoi ? On fait de la rééducation sur la motricité pour réapprendre certains gestes ?
Alors le plus important dans la dyspraxie, c'est d'aller voir le psychomotricien qui va nous apprendre à automatiser ces gestes qui n'ont pas été automatisés ou à mieux contrôler son geste,
à compenser un
peu de manière à le réaliser. C'est exactement ça. Il nous apprend à compenser, tout comme l'orthophoniste va rééduquer la lecture, le psychomotricien va rééduquer le geste ou apprendre à, comme je le dis toujours, mettre plus d'énergie dans la réalisation du geste de façon à mieux faire.
Ça se fait comment avec les enfants, ces séances? Ça dure longtemps? C'est des jeux, en fait, hein, c'est ça, c'est...
Alors, la psychomotricité, ça plaît beaucoup plus aux enfants que l'orthophonie, parce qu'ils se font crier dessus, on leur fait écrire des mots à répétition. La psychomotricienne, elle va faire rééduquer au travers de jeux. Donc souvent, effectivement, les séances sont mieux vécues, mais ça induit certains parents en erreur parce que les parents s'inquiètent de ne pas voir le gamin sortir en pleurant ou dire « je ne veux pas y aller ». Et quand on lui demande « qu'est-ce que tu as fait ?», le gamin répond souvent « j'ai joué ». Mais c'est comme ça qu'on rééduque une dyspraxie.
Et pendant combien de temps on fait ces séances? Ça dure combien de temps, cette rééducation? Parce qu'on ne peut pas le guérir, on est d'accord?
Alors, tout dépend du degré de dyspraxie. Il y a différents degrés de dyspraxie, mais la plupart du temps, il ne faut pas compter faire moins d'un an de psychomotricité. Et lorsqu'on a par exemple un trouble de la coordination plus des difficultés en motricité fine, on est plutôt parti sur 3 ou 4 ans de rééducation.
Quand même, c'est assez important. Jimmy ?
Et ces séances coûtent combien et sont-elles remboursées par la Sécurité sociale ?
Alors la plupart du temps, c'est entre, je ne veux pas dire de bêtises, 45 et 80 euros. Ça dépend
des
lieux et des personnes.
C'est ça, j'ai regardé avant l'émission, c'est exactement ça.
Pour une fois, je n'ai pas fait de recherche internet.
C'est ça.
Et malheureusement, ça n'est pas pris en charge par la Sécu. Cependant, dans certains cas, notamment pour les Parisiens, il peut y avoir des aides à obtenir facilement par la mairie. Pour les autres personnes, on peut passer par un dossier MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées,
parce que
de manière
handicap,
à avoir une
alors.
Aide financière. C'est un handicap.
Ça fait un peu peur quand vous dites ça, parce qu'on se dit « waouh, mon enfant, il est handicapé en fait, c'est ça ?»
Quand on parle de handicap, on a souvent en tête finalement l'image de la personne en fauteuil roulant. C'est un handicap visible et la grosse difficulté de la dyspraxie, c'est un handicap invisible. Mais par handicap, qu'est-ce qu'on entend? On entend finalement une gêne dans le quotidien. Et ces enfants ne sont pas gênés uniquement à l'école, mais aussi dans leur quotidien.
Ils ne savent pas faire leurs lacets, par exemple.
Ils peuvent avoir du mal à apprendre à faire leurs lacets. Alors, ils utilisent la technique que j'appelle les oreilles de lapin qui vont coller, entremêler de 10 façons différentes. Ils se cassent la figure. La trottinette, c'est pas évident. Le vélo, c'est pas évident. Comme je disais, on les prend pas dans les équipes de foot ou on les met dans les cages. Donc, il y a une gêne dans leur quotidien. C'est un vrai handicap et ça doit être reconnu en tant que tel de manière à les aider au mieux.
Très bien. Donc, ça peut effectivement, on peut obtenir éventuellement une prise en charge comme ça pour les séances de psychomotricité, c'est ça? Est-ce que c'est important, vous disiez qu'il y a quand même un fort retentissement à l'école, parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de graphisme, la géométrie, j'imagine que ça peut être compliqué aussi, c'est de la motricité fine. Quand on doit faire sur une règle, passer une équerre pour faire un angle droit, chez ces enfants-là, ça doit être un peu compliqué.
Alors, la géométrie, les lacets, écrire sur les lignes, c'est ce qu'on appelle du repérage spatial.
Ah, oui.
Donc, dans les troubles visio-spatiaux, il y a effectivement aussi une grosse dépense d'énergie. Et c'est important chez ces enfants-là de passer chez le pédopsychiatre pour aller voir si on a d'autres troubles dys associés, un trouble de l'attention et éventuellement avoir des propositions de prise en charge supplémentaires.
Ça vaut le coup d'en parler ou de voir éventuellement le médecin scolaire du coup, puisque quand même le retentissement il est scolaire.
Il est très important de rencontrer le médecin scolaire pour les enfants dyspraxiques, de manière à demander ce qu'on appelle le PAP. Alors là, ce n'est pas de particulier à particulier.
C'est quoi ça, le PAP?
C'est protocole d'accompagnement personnalisé,
le PAP.
Où on va demander à soulager l'enfant de l'écriture, à ce qu'il fasse des dictées à trous, parce qu'on ne s'en doute pas forcément non plus, mais ce sont des enfants qui ont des difficultés en orthographe. Quand vous avez du mal à écrire et que vous faites beaucoup d'efforts pour bien écrire, vous allez oublier des lettres et pas forcément penser à vos accords.
Bien sûr.
Et donc, ce sont des enfants qui, parfois à tort, vont chez l'orthophoniste, qui va dire qu'il y a une dysorthographie. Dysorthographie sans dyslexie, toujours se méfier. Et chez qui le trouble visio-spatial, le problème de repérage dans l'espace, passe à l'as.
Jimmy ?
Et c'est des troubles qui ne s'améliorent pas spontanément en vieillissant. Et est-ce qu'on peut, avec la rééducation, les traiter de façon définitive? Est-ce qu'on guérit des troubles dyspraxiques?
Alors, je sens la question personnelle à Jimmy qui fait encore des fautes d'orthographe.
Non, les médecins, on écrit mal pour cacher les fautes d'orthographe.
Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est un secret, on le dit
ça
pas.
Ça ne passe pas avec l'âge, effectivement, sans rééducation. Et il m'est arrivé de voir à deux reprises au mois de décembre des jeunes qui avaient un trouble visio-spatial unique, sans troubles de la coordination, donc des difficultés graphiques. Un a fait un burn-out en quatrième, au moment où il a fallu écrire de plus en plus vite et de plus en plus. Et l'autre a complètement été en échec scolaire à partir de la seconde, au moment où la prise de notes devait être rapide et automatisée.
Et là, alors du coup, on aurait pu faire quoi pour ces enfants? Une AVS, peut-être pas au lycée, je ne sais pas, pour ce genre de troubles, c'est possible? Ou alors l'ordinateur, peut-être, ça peut être une aide?
Allez, je vais encore râler et je vais dire on aurait pu former les enseignants et dépister plus précocement. Mais à cet âge-là, effectivement, ce qu'il faut proposer quand c'est diagnostiqué tardivement, il faut les mettre sur ordinateur où on va avoir du coup l'automatisation du mouvement qui va se faire plus facilement et surtout le correcteur orthographique.
Et oui, bien
c'est ce
sûr.
Qui sauve tous les médecins,
ça,
Jimmy.
C'est évident.
Est-ce qu'il y a certains troubles qui peuvent finalement ne pas avoir besoin d'accompagnement, des enfants qui vont s'adapter, qui vont faire avec et finalement qui vont avoir une scolarité normale, être un peu gênés parce qu'ils sont un peu gauches, mais qui vont avoir une vie normale?
Effectivement, certains enfants vont se débrouiller, compenser naturellement, spontanément, en dépensant plus d'énergie, la plupart du temps, au coût d'une lenteur. En fait, ils vont faire un petit peu plus lentement que les autres, mais ils vont quand même réussir à se débrouiller. Ce qui est important à dire aussi, c'est que trouble 10 ne veut pas dire problème d'intelligence.
Ils sont normaux, ils ont un quotient intellectuel normal.
Ils sont parfaitement normaux, ou comme moi j'aime bien leur dire, de toute façon, personne n'est normal.
Oui, c'est ça, bien sûr. On peut aussi voir les choses comme ça, vous avez tout à fait raison. J'aime bien cette vision positive des choses. À l'école, vous disiez donc ordinateur, éventuellement AVS, quand c'est très, très lourd comme handicap, quand le trouble est très sévère. Est-ce qu'ils ont droit, par exemple, aussi à éventuellement avoir un peu plus de temps quand il y a un PAP, un plan d'accompagnement, je ne sais plus
Alors,
quoi.
Dans le PAP, ce qu'on va proposer, c'est de limiter l'écriture. Et
pour les
aussi,
examens ouais.
Aussi, parfois, un temps supplémentaire, de manière à ce qu'ils prennent le temps de bien écrire et prennent le temps de corriger les fautes d'orthographe.
Jimmy ?
Et une fois traités, est-ce qu'on peut espérer, lorsqu'ils sont plus grands, à l'âge adulte, de malgré tout faire des métiers avec qui nécessitent une motricité très fine, chirurgien, tailleur de diamants, ou finalement c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté d'emblée et en avoir conscience ?
Alors, tout dépend du trouble et de la sévérité du trouble. C'est vrai que j'ai rencontré récemment un jeune qui avait un trouble visio-spatial et qui faisait des études d'architecte. Et malheureusement,
ouais, là,
il était recalé pour la troisième fois de sa première année. Et c'était assez difficile à entendre comme sentence pour lui. En général, ce sont des enfants quand même qui vont s'orienter spontanément vers des métiers qui leur sont adaptés.
On ne l'a pas abordé, mais est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent aider ces patients dyspraxiques, ces enfants dyspraxiques?
Alors, pour les enfants dyspraxiques qui ont un trouble de l'attention associé, on propose parfois, et j'insiste sur le parfois parce qu'il ne faut pas que ce soit automatique, de la Ritaline pour les aider à mieux se concentrer. Et la Ritaline aura un deuxième effet, en plus de les aider du point de vue de l'attention, c'est que ça va les aider aussi pour le geste moteur. Donc en fait, on constate également une amélioration de l'écriture chez ces enfants-là.
Vous, qui en avez vu beaucoup des patients dyspraxiques, une fois qu'ils ont fait leur rééducation, il y en a beaucoup qui ont vraiment une vie, une scolarité normale, qui arrivent au bac sans souci. Enfin, voilà, un petit message positif pour terminer, j'en suis sûre.
Alors tout dépend des aménagements qu'on va leur proposer.
C'est ça.
Et souvent, ces enfants-là vont tomber sur des enseignants compréhensifs qui vont aider. Et à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut dire quand même, effectivement, c'est qu'à partir du moment où on est bien suivi, où on a des aménagements scolaires,
et très
on s'en
tôt,
sort.
Et dès la petite enfance, c'est l'idéal. C'est ça le message pour terminer.
Ce qui est important, c'est de les dépister en grande section de maternelle, au plus tard en CE1.
C'est ça. Et là, on peut faire tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien pour la suite.
Exactement.
Merci beaucoup, docteur Vera, d'être venu sur notre plateau pour nous expliquer tout sur la dyspraxie, un handicap invisible, mais qu'il est primordial donc de dépister tôt, dès la grande section de maternelle, dans l'idéal. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1. Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à l'hépatite A. Elle est rare en France, mais attention, si vous voyagez en Afrique ou en Asie, par exemple, des zones où ce virus circule beaucoup plus, on fera le point sur sa transmission et bien sûr sur son traitement. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de l'hépatite A, beaucoup moins connue que la B ou la C. Mais vous, savez-vous ce que c'est? Même si c'est rare, il y a des cas en France, notamment à cause des voyages et parfois aussi dans la population homosexuelle. Savez-vous comment cela se transmet? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Je l'ai déjà eu, c'est très douloureux. J'ai perdu 7 kilos en 2 semaines. C'est très efficace pour les régimes, mais je déconseille fortement.
C'est une bactérie dans le sang, non ? C'est pas comme le ver solitaire ou un truc comme ça ?
Une hépatite A, c'est une infection du foie due à un virus qui se transmet à travers les matières fécales.
Une maladie, moi j'ai toujours entendu que c'était lié à la consommation d'huîtres, l'hépatite A.
J'imagine que les personnes touchées le plus par l'hépatite A sont sûrement les toxicos ou ceux qui utilisent des choses en rapport avec le sang.
On doit avoir des fièvres, j'imagine quelqu'un de pas bien, quelqu'un peut-être d'alité.
Ça se soigne pas en fait, c'est ton corps qui au bout d'une semaine de grippe en fait évacue le virus.
Comment s'appelle le docteur du foie ? J'en ai pas la moindre idée, je sais pas, un gastro-entérologue.
Alors Jimmy, on parle de l'hépatite A à présent. D'abord, dites-nous ce que c'est et puis si c'est fréquent finalement.
L'hépatite A, c'est une infection virale, à un virus de l'hépatite A qui se distingue de l'hépatite B ou C que tout le monde connaît par plusieurs choses. La première, c'est le mode de transmission qui est différent. La deuxième, c'est qu'une hépatite A ne deviendra jamais chronique. Et enfin, l'hépatite A peut se compliquer d'une hépatite fulminante. C'est 5 cas sur 1000. Et dans ces cas-là, ça peut conduire à la transplantation, on en parlera ensuite. Alors, c'est fréquent dans certaines zones du monde, avec un développement plutôt, avec de l'hygiène plutôt précaire.
Si on prend, je crois, le mondial, c'est l'hépatite la plus fréquente,
c'est
mais
exactement.
Pas dans notre pays.
En France, 50% des hépatites A surviennent chez des gens qui ont voyagé au Maghreb. Mais on peut trouver aussi en Afrique, au Moyen-Orient, on en a parlé, en Asie ou en Amérique latine, et dans des zones où il y a un faible niveau d'industrialisation.
Très bien, donc en France, en tout cas, on n'en a pas beaucoup. Comment ça se transmet ?
Alors, le virus, il est excrété dans les selles, ce qui veut donc dire que la transmission d'homme à homme se fait par voie féco-orale. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas immunisée contre le virus, qui ne l'a jamais rencontré, qui n'a pas été vaccinée, eh ben, elle va être contaminée par les selles d'une autre personne qui a été infectée par l'hépatite A. Et ce mode de transmission, il est favorisé par de mauvaises conditions d'assainissement et par une hygiène collective et individuelle plutôt insuffisante. Les règles d'hygiène de base permettent souvent d'éviter cette hépatite en se lavant les mains lorsqu'on est en vacances. Et il y a aussi un mode de transmission par voie sexuelle qui est plus rare, mais qui est plus fréquent dans la communauté homosexuelle, favorisé par des contacts oro-anal.
D'accord. Alors moi, on m'a vacciné contre cette hépatite A parce que je partais en Thaïlande il y a quelques années et apparemment, il y avait un risque avec l'alimentation en fait.
Exactement.
Donc c'est possible.
C'est une zone d'endémie où il y a beaucoup d'hépatite A. Et en plus de ça, on sait qu'on peut avoir une contamination indirecte d'origine alimentaire. C'est rarissime en France puisque les conditions sanitaires sont nettement supérieures
Bien
en
sûr.
France et en Thaïlande. Mais certains aliments peuvent être contaminés par des déjections humaines, notamment les mollusques, les crustacés ou ceux qui seraient mal cuits ou contaminés par une eau insalubre, des légumes.
Oui, moi, on m'avait parlé des légumes, des salades, attention aux crudités mal lavées, c'est pour ça qu'il fallait...
Il faut les éplucher, les cuire ou les éviter.
Ou être vacciné, surtout avant de
exactement.
Partir.
Exactement. Donc quand on voyage, un conseil, allez sur le site de l'Institut Pasteur, vous mettez le pays dans lequel
c'est
vous
vrai,
souhaitez voyager
pratique,
et vous avez toute la liste des vaccinations à faire ou s'il y a le paludisme ou un risque sanitaire
bien
particulier.
Sûr. Et donc il y a un vaccin efficace hein, contre
exactement,
cette hépatite A.
Exactement, contre l'hépatite A, il marche bien, 10 à 20 ans d'immunité, on peut le faire à partir de 1 an, c'est 2 injections classique, avec une injection avec un rappel 6 mois ou 1 an après.
D'accord. Et ce vaccin, donc il y a un vaccin, mais si on l'attrape donc, et qu'on n'est pas vacciné, ça se traite quand même ou pas ?
Exactement. Mais avant de le traiter, il faut savoir qu'on l'a. Et les symptômes sont très particuliers. On peut avoir une fatigue avec une fièvre prolongée. Et puis on a ce qu'on appelle un ictère. On devient tout jaune.
Ah oui, et donc, c'est le foie, l'hépatite.
Donc si vous êtes tout jaune et que vous avez de la fièvre, et qu'en plus vous avez mal au niveau du foie, le foie se trouve sous les côtes à droite, à ce moment-là, on fait une prise de sang pour vérifier si vous avez cette hépatite, parce que ça peut être là ou une autre. Et attention, comme je vous ai dit, 5 cas sur 1000 se compliquent d'hépatite fulminante. L'hépatite fulminante, c'est une insuffisance hépatocellulaire. Le foie ne répond plus. Vous pouvez devenir encéphalopathe confus et ça peut conduire à la transplantation. Il n'y a pas de traitement de l'hépatite, juste on surveille, on attend que ça passe.
D'accord, donc vaccin plus, je crois que là vous nous avez convaincus.
Et on se lave bien les mains en vacances.
Bien sûr, très bien. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question des films pornographiques. Certains en regardent même pendant les rapports sexuels. Catherine nous dira ce qu'elle en pense, mais avant ça, un peu de musique sur Europe 1. C'est la chanteuse Cyndi Lauper avec son titre culte Time After Time.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, c'est la chronique sexo avec Catherine Blanc qui nous rejoint. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, vous allez bien ?
Je vais très bien, je vous remercie Mélanie. Et vous ?
Mais écoutez, parfaitement, on vous attendait avec impatience, surtout Jimmy, comme tous les jours. Alors, aujourd'hui... On répond comme tous les jours à une question, des questions qui nous sont envoyées par nos auditeurs. Alors aujourd'hui, c'est Xavier qui nous a envoyé une question, je vous la lis. Ma copine a pris l'habitude de mettre un film porno pendant que nous faisons l'amour. Ça me perturbe, mais j'ai peur de passer pour un garçon prude si je lui dis quelque chose. Que faire ? Alors Catherine, avant de répondre à la question de Xavier, comment on explique le fait d'avoir envie comme ça de regarder un porno pendant l'acte ?
Eh bien, c'est une façon peut-être de se trouver une stimulation, de trouver une règle du jeu, d'attirer l'attention sur autre chose, de se sentir dans le film, d'érotiser via le film, c'est-à-dire de se voir faire ou être ce que le film montre, ou alors une idée que c'est pour lui, pour l'exciter, parce qu'elle a une idée préalable que les hommes, ça les excite, et peut-être doute-t-elle de sa capacité à exciter son homme, donc du coup, elle met en scène tout ce qui lui paraît être un peu des lieux communs d'excitation masculine, sauf que ce n'est pas le cas.
C'est marrant que ce soit une fille qui fasse ça. On aurait imaginé plutôt que c'était quelque chose de garçon. Enfin, je sais pas, non, je genre quelque chose qui a peut-être pas. Pourquoi pas les filles ne pourraient pas avoir ce genre d'idée, mais je.
Oui, c'est parce que c'est pas très naturellement féminin en effet, hein? Puisque les femmes, elles sont plus à rechercher des choses à l'intérieur d'elles-mêmes, à fantasmer, à imaginer des choses.
Mais pas toutes, apparemment.
Plus qu'elles ne sont dans l'acte direct de voir, plus mécanique. Mais donc pas toutes, mais encore une fois, c'est peut-être aussi l'idée qu'elle se fait de ce que devrait être sa sexualité, un peu avec un côté un peu hard, et puis aussi peut-être une façon de dépoussiérer la relation de ce qui pourrait naître, à savoir le sentiment, l'émotion. Là, on est dans le pur et dur, on est dans le mécanique.
Dans le technique. Ouais.
Dans le technique, et peut-être qu'elle veut se protéger, ce qui l'inquiète plus que la sexualité au sens de la mécanique, qui est l'émotionnel. Mais je voudrais dire un truc qui est important dans cette question, qui est capital. C'est que l'idée qu'il pense qu'il aurait l'air prude s'il disait que ça ne lui convient pas, est une idée importante à soulever, parce que c'est ce qui est à l'origine, par exemple, des jeunes gens qui acceptent qu'un plus grand les touche pour ne pas avoir l'air petit, que c'est une fille qui accepte d'être embrassée pour ne pas avoir l'air coincée.
Donc c'est une forme de violence, un petit peu.
Exactement. Hein, c'est-à-dire, je crois que vraiment, l'histoire est un peu mécanique, là. Mais c'est l'occasion pour moi de dire qu'on n'est jamais ridicule et prude parce qu'on ne participe pas du fantasme de l'autre. Et c'est ce que nous devons savoir et apprendre.
On peut dire non.
Et on doit dire non. On doit dire ça ne me convient pas, ça ne m'excite pas. Pourquoi finalement tu fais rentrer ce truc dans l'histoire alors que moi je suis avec toi et là,
envie.
On n'est pas du tout dans une histoire qui me correspond.
Alors Jimmy, il n'a pas peur de dire non, le Jimmy de Mohamed, dites-nous.
mais surtout que le porno, ça peut être un peu tabou dans un groupe. On a l'impression que chacun pourrait regarder du porno de son côté sans jamais en parler et encore moins le partager. Et du coup, décrire ce malaise, ça doit être très compliqué.
Bah oui, c'est compliqué parce que, encore une fois, on croit qu'il faut qu'on soit à l'aise avec tous les trucs de la sexualité. Chacun devrait être avec ces pratiques-là, mais qui est une pratique purement commerciale qu'on nous a mis dans la tête. La réalité, c'est que c'est pas comme ça qu'on fait la sexualité. La sexualité n'a pas besoin de la pornographie pour s'exprimer. Nous sommes suffisamment pornographes dans notre tête, puisque nous nous racontons des tas d'histoires. Nous mettons en scène des tas de choses, avec des personnages d'ailleurs parfois très très curieux. On n'a pas besoin qu'on nous les souffle. On est tout à fait capable de se les inventer. Toute la difficulté, là, c'est que c'est imposé par l'un des deux. Là, il se trouve que c'est une femme, ce qui est une originalité peut-être un peu, mais quand c'est un homme, c'est pas mieux de toute façon.
Mais c'est difficile quand même, j'imagine, non ? Enfin, de se concentrer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois dans ce qu'on est en train de faire vraiment avec la personne qui est là et le film. Enfin, c'est pas quelque chose que vous recommandez, j'imagine.
Mais non, parce qu'en fait, il y a un truc, que ça soit à l'occasion une fois, c'est une chose, mais que ce soit systématique,
régulier, ouais.
c'est vraiment comme pour trouver un élan là où il n'y a pas d'élan. C'est-à-dire que l'élan, c'est se faire croire en un élan et à une hyper-sexualisation, alors qu'en réalité, il y a l'élan qui peine fondamentalement et qu'il a besoin d'avoir c'est plus qu'un point de départ, c'est carrément le moteur qui est à l'extérieur de soi. Donc c'est vraiment une fuite de l'émotion, c'est une fuite de la relation, c'est une fuite de la créativité. C'est vraiment.
Donc Xavier, ils doivent dire non tout simplement.
Oui,
c'est ça votre
parce
conseil
que,
fait au
bien
final.
Bien sûr.
Hein.
Et puis il faut qu'il lui pour lui ouvrir, au lieu de dire que c'est parce qu'il aura l'air prude, c'est pour lui ouvrir d'autres voies de la sexualité beaucoup moins mécaniques et beaucoup plus enrichies.
Donc il dit non et si elle est pas d'accord, peut-être qu'il faut que ça s'arrête cette relation.
En tout cas, il faut pas se réduire. Oui, parce que sinon on s'abîme de toute façon si on se réduit à cela.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain dans Sans Rendez-vous, une émission consacrée à l'asthme et au sport. Comment concilier les deux ? C'est tout à fait possible et ça améliore même les patients. Vous verrez. On vous dira tout.